Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par les données de santé. On peut penser à ce que dit Gérard Raymond, président de France Asso Santé et vice-président du Health Data Hub, donner son sens et aider son prochain. Il en est de même du partage de ses données de santé. Les partager à son équipe soignante, c'est être mieux soigné. Les partager pour tous, c'est permettre que l'ensemble de nos concitoyens le soit aussi. Accepter de partager ses données de santé, c'est donc participer à un effort collectif. C'est nourrir ces gigantesques viviers d'informations qui permettent aux chercheurs de mieux comprendre les maladies, d'en extraire des modèles, de détecter des schémas jusque-là invisibles. Ces données sont utilisées pour découvrir de nouveaux outils diagnostiques, pour mieux comprendre l'émergence de certaines pathologies et pour orienter les politiques de santé publique. De nombreux catalogues en ligne rassemblent déjà des informations précieuses sur les maladies rares, les réponses à certains traitements ou encore des trajectoires de soins particulières. Mais ces promesses s'accompagnent de questionnements. Une fois les données modélisées, que deviennent les patients réels? À qui ces modèles profitent-ils réellement? Peut-on garantir l'équité dans un monde de données partielles, parfois biaisées? Peut-on faire confiance à des preuves produites par des patients virtuels? Et au fond, est-ce que la médecine gagne ou perd de son humanité quand elle se virtualise? Pour y réfléchir, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie Dubruel.
Bonjour, donc je suis juriste en droit de la santé, doctorante à l'Institut Maurice Oriot à l'Université de Toulouse et membre de l'équipe bioéthique au CERPOP à l'INSERM.
Et Fabrice Ferré.
Bonjour, donc moi je suis médecin anesthésiste réanimateur et j'exerce au sein du CHU de Toulouse.
L'un des procédés qui procède du recueil de données de santé, c'est la génération d'un jumeau numérique. On parle de jumeau numérique pour toute chose modélisée et reproduite fidèlement. Bon, le jumeau numérique, ça peut être le jumeau d'un objet, d'une chose, de n'importe quoi, mais ça peut aussi être le jumeau d'un patient. Ce procédé, il peut concerner les patients particuliers. Est-ce qu'on pourrait reproduire numériquement un organe ou un corps entier? Et à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour tester des traitements, pour mieux comprendre une maladie, par exemple? Quel va avoir le rôle du jumeau numérique, finalement, dans la pratique?
Alors, si tu es d'accord, Flora, moi, je propose d'abord de donner une définition de ce que c'est que le jumeau numérique, même si elle n'est pas consensuelle dans la littérature. Mais en tout cas, on dit bien que c'est une représentation virtuelle d'un patient qui intègre de façon dynamique des données multimodales à l'aide de modèles mécanistiques ou statistiques, finalement pour permettre l'optimisation de la prise de décision et de prédire l'impact d'une intervention sur les résultats. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner la définition des essais ou des études in silico, qui sont des essais cliniques donc simulés sur ordinateur à partir du jumeau numérique, pour évaluer l'impact d'une intervention sans avoir recours directement à des expérimentations in vitro ou in vivo qu'on a l'habitude de réaliser.
D'accord. Donc là, on déplace un petit peu le lieu d'étude, c'est-à-dire donc on n'a plus le patient sur lequel on va expérimenter, le mot est un peu fort, mais essayer quelque chose, mais on a son jumeau sur lequel là on peut agir. Sans, en fait, c'est une espèce de gain pour le patient dans le sens où il ne va pas subir un traitement qui ne pourrait pas être le traitement optimal, par exemple.
Absolument. En fait, ça permet d'identifier encore une fois la stratégie optimale, personnalisée, qu'on va tester sur le jumeau numérique et ensuite l'appliquer une fois qu'elle démontre son succès, qu'elle est concluante, l'appliquer chez le patient. Il y a pas mal d'exemples, notamment en cardiologie interventionnelle, où par exemple, grâce à une modélisation mécanistique et statistique, on arrive à reproduire le système cardiovasculaire, et notamment le circuit électrique qui permet de donner la fréquence cardiaque et les battements cardiaques. Et lorsque le patient présente par exemple, un foyer qu'on appelle ectopique d'arythmie cardiaque, eh bien on est capable, grâce au jumeau numérique, d'identifier précisément le faisceau, ce foyer ectopique qu'il faudra aller ablater pour pouvoir ensuite le réaliser chez le patient. Là, je vous ai cité un exemple en cardiologie interventionnelle, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que les cardiologues sont probablement en avance de phase sur cette thématique-là du jumeau numérique.
Alors, ça veut dire qu'on peut... C'est aussi une manière d'explorer le corps. C'est pas seulement tenter des traitements, mais c'est aussi aller chercher une information qui va servir pour... une chirurgie ou quelque chose comme ça.
Tout à fait. Alors, je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, de vous dire s'il y a eu des principes physiopathologiques qui ont été remis en cause par la création de ces jumeaux numériques ou de ces cohortes de jumeaux numériques. Mais en tout cas, c'est sûr que cette modélisation-là permet de cibler des interventions chez un patient donné. Et je pourrais donner d'autres exemples sur ces phénomènes de précision balistique qui permettent, encore une fois, de mieux cibler l'acte à réaliser.
Le jumeau numérique, c'est le jumeau du corps entier ou c'est le jumeau d'un organe? Comment, à quelle échelle ça se fait?
Les deux existent.
D'accord.
Les deux existent. On va dire qu'il y a une on peut le voir, les mathématiciens qui travaillent là-dessus parlent de multi-échelles. Mmh. On peut représenter un appareil cardiovasculaire, un foie, un organe, donc le jumeau du patient, mais on peut également représenter un patient dans son ensemble avec les données qu'on a à notre disposition pour le créer, en fait, et pour l'intégrer. Mais les deux sont possibles, absolument.
Et donc, ça fait entrer véritablement tous les techniciens du numérique dans l'hôpital, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre les médecins et tous ces ingénieurs. Je ne sais pas qui sont exactement les personnes qui produisent les jumeaux numériques. Mais en tout cas, il faut collaborer avec eux, non?
Là, vous prêchez un convaincu. Non, c'est vrai qu'en fait, il y a de nouveaux métiers qui émergent, clairement. On ne peut pas l'envisager autrement qu'en étant transdisciplinaire. Et on a besoin aussi de juristes de la santé, c'est fondamental. Il y a tout un écosystème qui doit être structuré afin de permettre aux usagers de bénéficier de ces innovations. Et si on parle rien que du point de vue mathématique ou statistique, on pourrait se faire saigner les oreilles si on parle d'auto-encodeurs variationnels, de réseaux adverses, de réseaux de neurones convolutionnels, etc. Mais effectivement, on a besoin de ces mathématiciens pour nous aider à modéliser des principes physiopathologiques. Ça ne peut pas se faire sans transdisciplinarité. Donc c'est fondamental. Mais dans beaucoup d'autres domaines aussi, notamment des domaines éthiques, par exemple.
Grâce aux modèles issus des données de santé, on peut avoir recours aussi, alors là on parlait des jumeaux numériques, mais il y a aussi le cas des patients virtuels. Et là, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant pour préparer l'épisode, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ne reproduisent pas le corps d'une personne en particulier, mais ce sont des patients virtuels avec des caractéristiques plus générales, mais qui sont issus des données de santé. Donc, il ne s'agit pas de répondre ou de reproduire virtuellement des singularités d'un patient particulier, mais de générer, on pourrait dire, un patient modèle. Ça, c'est quelque chose que vous faites en médecine et qui vous est utile. Pourquoi faire, en fait?
Alors, c'est effectivement, il se trouve que c'est ce sur quoi nous travaillons, notamment avec la professeure Stéphanie Alassonnière, qui est mathématicienne à l'Université de la Sorbonne. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Ça consiste en quoi? Ça consiste à partir de patients et de données réelles, et ensuite utiliser des outils mathématiques et statistiques pour augmenter ces données et créer ainsi des cohortes de patients artificiels qui seraient finalement un mélange de patients réels et de patients synthétiques nouvellement créés. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est qu'on a parfois du mal à aller au terme d'études cliniques, notamment randomisées, contrôlées, à cause de données manquantes, notamment liées aux difficultés d'inclusion. On estime qu'il y a près d'une étude sur deux qui ne va pas au bout à cause des difficultés d'inclusion. Et il est probable qu'en utilisant des cohortes de patients artificielle, donc encore une fois un mélange de patients réels et de patients synthétiques, on puisse obtenir la puissance statistique suffisante pour confirmer ou infirmer nos hypothèses de recherche. Et donc, ça serait finalement la garantie d'obtenir des conclusions parce qu'on aurait suffisamment de patients pour aller au bout de cette démarche scientifique. Ça, c'est la première chose.
Donc, ça veut dire que les patients virtuels, ils peuvent augmenter une cohorte de patients réels ?
Absolument.
D'accord.
C'est
donc
ça.
C'est, donc, une cohorte où il manquerait certains profils serait augmentée de profils virtuels ?
Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est probablement le deuxième enjeu. Il y a des cohortes de patients réels où parfois certaines populations, finalement certaines minorités, sont sous-représentées. Et effectivement, en créant des patients artificiels, on pourrait décider de rééquilibrer ces minorités en faisant en sorte qu'elles soient mieux représentées. C'est parfois le cas des femmes enceintes ou des enfants chez qui il est difficile de faire de la recherche. Et encore une fois, c'est ce qui permettrait de faire des découvertes et des conclusions. Mmh. Et nous avons un exemple assez concret, notamment en médecine périopératoire. Hein, tu l'as dit, Flora, moi je suis anesthésiste réanimateur et un de mes axes d'activité, c'est la médecine périopératoire. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'en créant des cohortes de patients artificiels, donc encore une fois un mélange de patients réels et de patients synthétiques, on était capable d'améliorer la force prédictive de nos algorithmes de classification qui permettent de prédire le pronostic post-opératoire des malades qui sont opérés d'une chirurgie, par exemple.
Donc, à nouveau, ça va servir pas seulement à la recherche en général, mais au cas individuel.
Alors, effectivement, on sort un peu du jumeau numérique. Hein. Les patients artificiels, nouvellement créés, qui ont une structure, on va dire, de données comparables à celle de la population, avec quand même une distribution probabiliste qui reste variable, ne sont pas véritablement des jumeaux numériques. Hein. Ils ne sont le jumeau de personne.
Oui.
Mais c'est juste de nouveaux patients synthétiques qui viennent compléter les cohortes de patients réels.
Du point de vue du droit, le jumeau numérique, c'est moi, donc il m'appartient, en quelque sorte, ou pas ?
En tant que juriste, quand une innovation se développe, on a besoin de la qualifier. Et pour l'instant, le jumeau numérique, il n'existe pas du point de vue du droit. On a du mal à savoir ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment la première question qu'on se pose. Savoir si c'est déjà, qu'est-ce que c'est un logiciel, un dispositif médical, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, donc on n'a pas de cadre à y appliquer. Surtout que, comme Fabrice le disait, il y a le jumeau numérique qui est rattaché à l'individu, mais aussi les cohortes de patients virtuels qui, là, sont pas rattachés à des individus, donc détachés des données de santé. Donc on a même ces deux perspectives-là, il n'y a pas de définition non plus consensuelle dans la littérature. Donc voilà, du point de vue du droit, c'est compliqué. En termes d'appartenance, c'est quelque chose qu'on réfléchit dans mon équipe de recherche actuellement. Donc, il n'y aura pas de réponse claire pour l'instant. Il y a certains auteurs qui réfléchissent, et notamment nous, dans mon équipe de recherche, qui réfléchissent au fait que peut-être que le jumeau numérique pourrait avoir cette valeur qu'a la donnée de santé, donc être rattaché à l'émanation d'une personne sans être une appropriation pour autant, donc ne pouvant pas être commercialisé par la personne ou par des tiers. Et l'idée derrière ça, ce serait de permettre un usage qui soit moins contraignant du jumeau numérique, mais qui en même temps pourrait continuer de protéger des valeurs qui sont essentielles quand on parle de données de santé, donc protection de la vie privée, dignité, etc. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de propriété sur le jumeau numérique, sachant que les données qui sont produites par le jumeau numérique rentrent dans la définition des données de santé qui peuvent être des données futures sur la santé d'un individu ou des données prédites sur un individu. Donc ça rentre dans cette définition-là. Donc pour l'instant, on est rattaché à ce cadre. Et la question qui se pose aussi, c'est comment fonctionner avec les tiers qui vont créer les outils et les méthodes qui vont permettre de générer des jumeaux numériques. Parce qu'en fait, on pourrait très bien avoir un logiciel, par exemple, ou une méthode en particulier qui serait brevetée et qui, elle, permettrait de créer du jumeau numérique, mais qui serait ensuite lui-même créé sur la base de données de santé. Donc là aussi, on est obligé de décortiquer un peu tout ça du point de vue du droit pour savoir à qui appartient quoi.
Mais par contre, le patient virtuel lui, il appartient aux chercheurs qui l'ont créé, en quelque sorte, ou il appartient à personne non plus?
En toute logique, le patient virtuel est fondé sur la donnée anonyme, sauf s'il y a un enjeu particulier dans la recherche qui ferait qu'on ne pourrait pas anonymiser les données. Mais normalement, si c'est sur de la donnée anonyme, les corps de patients virtuels appartiennent aux chercheurs qui les a générés. Mmh. Là encore, il y a quand même des discussions à avoir, encore une fois, avec le tiers qui aura aidé à générer ces patients virtuels, qui sera peut-être à l'origine de la méthode qui permet de créer cet outil, et le chercheur qui aura peut-être apporté la base de données. Donc là, dans le cadre de la recherche, on est sur de la collaboration assez classique qui est encadrée par du contrat. Donc ça, en général, c'est pensé en amont. Mais comme on le disait tout à l'heure, ça veut aussi dire repenser la santé et la recherche de manière pluridisciplinaire, avec de nouveaux acteurs qui n'étaient pas pensés au départ et qui doivent être anticipés en amont.
Et alors, tout à l'heure, on évoquait la question des catégories de personnes qui sont sous-représentées dans les essais cliniques, par exemple. Et je me demandais si, justement, cette question ne pouvait pas aussi se poser en réalité pour l'utilisation des données, parce que cette sous-représentation qui concerne les personnes sur lesquelles on peut le moins faire des essais, comme vous avez dit tout à l'heure, les femmes enceintes, les enfants, mais il y a aussi des personnes qui sont celles qui ont peut-être le moins accès à la santé et qui sont dans des situations de vulnérabilité particulière. Ça veut dire que ces personnes-là qui ont moins accès à la santé génèrent moins de données et que ça risque de générer des modèles qui sont encore plus éloignés d'elles. Puisque les données ne seront pas là pour pouvoir générer des modèles qui les concernent. Est-ce qu'il y a un moyen de garantir une véritable équité dans les algorithmes qui génèrent des patients virtuels, en sachant qu'ils se basent sur des données issues du réel, qui sont souvent orientées par les chercheurs, qui ont leurs questions, qui doivent tester leurs hypothèses? Est-ce que la question de la représentativité d'une cohorte artificielle, elle peut se poser à, vous voyez mon raisonnement depuis, la question de combien de données sont à notre disposition, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les oriente, quoi.
C'est vrai que ce principe d'équité, il y a un véritable défi éthique sur ça, sur cette équité. En ce qui concerne les cohortes artificielles, donc qui consistent à augmenter les données à partir de l'intelligence artificielle générative, ce principe d'équité est véritablement questionné. Alors effectivement, si dans nos patients réels, on a quelques patients issus de ces minorités comme des femmes enceintes, des enfants ou des maladies rares, on va donc pouvoir augmenter leurs données et générer des patients synthétiques, artificiels, qui pourront enfin mieux représenter ces minorités. Mais effectivement, il faut essayer d'éviter au maximum ce qu'on appelle les privilégiés. Mmh. C'est-à-dire que si on collecte des données, par exemple, de façon massive que chez des patients qui sont en milieu urbain dans des grandes villes, on ne pourra pas bien représenter la distribution des variables sur le territoire national ou même international. Mmh. Donc il y a effectivement cet enjeu-là d'équité qui consisterait à éviter les privilégiés en évitant notamment la fracture numérique, mmh, c'est-à-dire les patients, oui, qui n'ont pas accès, voilà, finalement à cette santé numérique au sens large.
Mmh. Oui, ça, parce que le risque, c'est aussi de générer plus de vulnérabilité chez des personnes qui sont déjà vulnérables pour les raisons dont on vient de parler.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le cercle vicieux de se baser sur des données qui sont générées de manière massive, mais en fait par toujours la même tranche de population, et du coup d'augmenter plutôt des sous-représentations. Et donc je rejoins totalement Fabrice. L'enjeu de représentativité et d'équité, il est essentiel dans ce sujet. À mon sens, le premier point important, c'est déjà d'en avoir conscience. Donc, de savoir que les bases de données peuvent être non représentatives, qu'elles comportent des biais. Maintenant, on sait très bien dans la littérature que les biais sont aussi accentués par l'intelligence artificielle, qui, oui, génère elle-même des biais. Donc, soit ces biais sont liés aux données avec lesquelles elle a été créée et nourrie, soit même l'algorithme en lui-même, de par son créateur, peut aussi être biaisé et répéter des biais qu'on a tous tous en fait dans notre société. Et donc déjà avoir conscience de ça. Il y a un règlement européen qui vient de sortir sur justement l'encadrement de l'intelligence artificielle et qui pense ces risques-là et qui justement préconise le fait qu'il y ait toujours une garantie humaine, donc qu'il y ait toujours un regard humain quand on fait de l'intelligence artificielle. Et donc là, quand on crée des cohortes de patients virtuels par exemple, qu'il y ait toujours un humain qui soit derrière et qui puisse identifier ses biais.
D'accord.
Donc en avoir conscience, identifier. Et ensuite, du point de vue de ce qu'on appelle la soft law, donc le droit mou, c'est pas très beau dit comme ça, mais c'est le droit qui n'est pas contraignant. On a des lignes directrices qui existent aussi pour vérifier donc, d'un côté la qualité des données. Donc ça, c'est les principes FAIR qui indiquent justement que les données doivent être trouvables, d'une bonne qualité. Enfin voilà, il y a trois grandes catégories de règles à respecter pour que les données soient, qu'on les considère vraiment comme de grande qualité. Et maintenant, on réfléchit de plus en plus à d'autres lignes directrices qui viennent plutôt du Canada, qui sont les principes du CARE. Avec cette idée justement de faire attention à ce que les données respectent une certaine équité dans la représentativité. Ces principes, à l'origine, ils sont pensés pour la représentation des personnes autochtones, qui sont évidemment sous-représentées dans le domaine de la santé. Mmh. Et c'est des principes qui sont en train d'être remis sur le devant de la scène avec ces enjeux d'intelligence artificielle et de massification des données. Donc cette logique de représenter toutes les communautés possibles, de faire attention à la représentation des personnes vulnérables, voilà, donc d'avoir bien conscience des biais qui existent et d'essayer de les combler au maximum. Et c'est là ce qu'on disait tout à l'heure, les données artificielles ou données synthétiques, elles ont aussi cet intérêt de peut-être venir compléter des jeux de données qui seraient pas représentatifs de fait. Mais pour générer des données synthétiques, il faut aussi... c'est toujours un peu le cercle vicieux où il faut avoir de la donnée sur les personnes qu'on voudrait représenter pour pouvoir compléter les cohortes.
Et oui.
Juste rajouter une chose, Noémie, sur le corollaire de ce que tu disais, notamment sur la garantie humaine. Ça sous-entend quand même la confiance, hein, et notamment, du coup, l'explicabilité. Et finalement, la quantification de l'incertitude. Et on a absolument besoin de cette supervision, entre guillemets, en tout cas de cette garantie humaine qui permet d'éviter de se retrouver avec des modèles mathématiques, algorithmiques qui seraient en fait une boîte noire et qu'on ne comprendrait pas. Donc il faut cette explicabilité, cette éducation, des étapes de validation, etc., etc., pour finalement assurer cette garantie humaine, cette équité et cette fiabilité également.
Et le règlement européen parle aussi de transparence qui va avec l'explicabilité, tout à fait. Où il faut savoir comment l'algorithme fonctionne, comment il a été nourri, avec quelles données, pour pouvoir justement contrôler ses biais. Ouais.
D'accord. Donc ça servirait de garantie en quelque sorte, cette possibilité d'avoir accès au fond, à ce qui a fondé en fait tous ces procédés. D'accord, mais ça demande beaucoup d'expertise quand même. Donc, même si c'est transparent, tout le monde ne va pas pouvoir comprendre ce à quoi il a accès. Alors, j'ai une autre question qui est un peu plus générale, mais qui est quand même tout à fait dans l'esprit de ce dont on parle. C'est ces études menées sur des cohortes de patients partiellement ou totalement virtuels, est-ce qu'elles peuvent... est-ce qu'on peut considérer que les preuves qui sont produites à partir de ces études-là sont valables? C'est-à-dire que une preuve produite par un patient artificiel, est-ce qu'elle a la même valeur de preuve que celle issue d'un corps réel? Est-ce que la preuve qui est finalement en quelque sorte désincarnée, on pourrait dire, est-ce qu'elle continue à être légitime? Est-ce que c'est une question qui se pose aujourd'hui dans ces pratiques?
C'est une très bonne question. Et moi, je pense qu'il faut garder beaucoup de modestie et d'humilité face à toutes ces innovations. Et qu'on est plutôt dans une phase preuve de concept qui consiste à faire la démonstration scientifique par étape de la validité de nos découvertes. Et je te prends un exemple, c'est que on est en train actuellement, en tout cas les équipes du professeur Stéphanie Alassonnière, de Jean-Louis Fraisse et d'Olivier Thuillard en particulier, sont en train de rejouer des études passées en prenant finalement quelques patients réels des études passées, en les augmentant pour obtenir des cohortes de patients artificiels et essayer de démontrer si on obtient les mêmes résultats que par le passé lorsqu'on avait la totalité des patients réels.
Ah, d'accord.
Donc ça, c'est par exemple une façon, c'est une façon de prouver que le concept marche, et c'est une façon de démontrer que c'est applicable et que c'est utile. Mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels, enfin, il y a beaucoup d'autres axes pour lesquels il faudrait avoir cette même démarche de démonstration scientifique avant d'affirmer que la valeur d'un patient synthétique est la même que celle d'un patient réel, je pense.
Absolument. Et là, la démarche actuelle, c'est de prouver justement le bon fonctionnement de certaines de ces méthodes et de cette démarche auprès des autorités compétentes qui vont venir évaluer justement les preuves de la recherche. Donc l'Agence européenne du médicament s'intéresse beaucoup à ces sujets-là, mais bon, elle manque d'expertise, de connaissances et de compétences en la matière pour évaluer ça. Donc il y a vraiment en ce moment une espèce de montée de voix des acteurs du terrain pour aller vers les autorités compétentes et leur dire, voyez, regardez, ça marche ce qu'on peut faire. Enfin, ça marche dans certaines conditions, bien sûr. Ça marche si on fait ça comme ça, etc., avec certaines garanties. Et donc, les autorités essayent de comprendre comment ça peut marcher. Ce qui est compliqué, c'est que le domaine de la recherche est quand même très encadré dans le sens aussi méthodologique du terme. On a une façon de faire de la recherche, de faire des modèles. Et là, ça rentre pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, ça veut dire rompre un peu avec une manière de penser la recherche aussi, peut-être, même si quand on y réfléchit, la recherche c'est quand même une représentation par modèle de quelque chose qui existe normalement dans la vie, par exemple le modèle animal qui vient représenter en fait le corps, enfin voilà. Donc il y a toujours cette idée de représentation par modèle, mais qui là passe par des outils qu'on ne connaît pas et qui nécessitent des compétences qu'on n'a pas pensé au début dans le domaine de la recherche. Donc ça veut dire pour l'instant, non. Actuellement, les preuves, ces preuves qu'on appelle des prédictions in silico ou des données synthétiques ou des preuves numériques, elles n'ont pas de valeur à proprement parler, mais elles sont en train d'être réfléchies. Il y a toute une discussion qui se met en place pour ça.
Donc ça veut dire que c'est un nouveau champ de la connaissance qui est en train d'être construit, mais en même temps qu'il se construit, les expertises elles-mêmes sont en train de se construire. Si je comprends bien, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un expert de la totalité de ce dont on est en train de parler.
C'est un peu ça. J'ai envie de dire, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est un peu ça. Tout avance en parallèle, mais c'est absolument inévitable finalement. C'est parce qu'on collecte des données qu'on arrive à obtenir des modélisations et qu'on fait ensuite la démonstration de leur utilité ou de leur pertinence. Donc,
Oui, donc ça va demander du temps aussi de mettre en œuvre, pas seulement la mise en œuvre, mais aussi valider les preuves. Cette question de la légitimité de ces pratiques, elle va demander du temps.
Oui, beaucoup de temps et beaucoup de reconnaissance aussi. Ben là, il y a vraiment, je trouve, un enjeu de prouver, de valider, de prendre le temps de valider ces preuves, mais aussi que les autorités compétentes puissent accepter ces preuves-là. Donc il y a une espèce de double barrière où, par exemple, pour l'instant, les cas d'usage d'essais in silico dont on parlait tout à l'heure, que j'ai pu étudier, les chercheurs avec qui j'ai pu parler, ils partent aux États-Unis parce que la FDA est plus accompagnante dans ces enjeux-là que l'Agence européenne du médicament. Mais c'est aussi des questions de manque de compétences, comme on le dit tout à l'heure, et de manque de reconnaissance de ces usages.
Moi, j'ai l'impression qu'on est c'est une préface, en fait. On en est là. Et que le livre va s'écrire.
Oui, donc dire manque de compétences, c'est les compétences sont en train d'être développées, quoi. Même temps que la discipline.
Non, c'est pas du tout une critique. L'Agence du médicament le dit elle-même, hein, qu'elle manque tout simplement d'experts, de personnes qui sont vraiment experts dans ce domaine, des mathématiciens qui réfléchissent à ces sujets-là, c'est pas du tout une critique, c'est vraiment juste quelque chose qui est en train d'émerger et qui est en train de se construire aussi avec les acteurs du terrain, donc c'est assez intéressant.
C'est tout l'enjeu de l'applicabilité, en fait. Ça va être, c'est ça. Il y a déjà évidemment des applications, il y a de nombreuses applications, mais ce sont les prémices d'une nouvelle médecine, probablement.
Merci beaucoup, Noémie Dubruel et Fabrice Ferré.
Avec plaisir, merci.
Merci.
Nous nous retrouverons dans une troisième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.